à l'ombre de Concertina. L'émission en direct et en public d'ici Londres, depuis la Halle à Dieu le Fit.
Bonjour à tous, bonjour à toutes et merci d'écouter Ici l'ombre sur Radiola. Alors c'est le premier épisode de À l'ombre de Concertina, le mag d'Ici l'ombre, mais pas depuis la Halle, puisque cette année on a changé un petit peu de mouture. On voulait s'installer dans le parc, directement dans le parc de la Baume, mais la pluie nous a repliés dans les locaux de Radiola. Et demain, on espère que le deuxième épisode à l'ombre de Concertina, pardon, sera effectivement dans le parc. En tout cas, nous recevons aujourd'hui autour de la table plusieurs personnes qu'on ne va pas tarder à vous présenter. Bonjour à tous.
Bonjour.
Bonjour.
Et à toutes. Et bonjour Sylvie, qui est ma coéquipière pour animer cette table ronde, on va dire. Sylvie qui est de Radio Bourg-les-Valences et moi-même Frédéric de
Radio-Lucie. Et bonjour Frédéric.
Voilà, un duo de whiner pour animer cette émission. Parce que ce premier rendez-vous à l'ombre de Concertina, il aura pour fil rouge la relation entre pauvreté, activisme et répression, qui était le thème de l'atelier... qui vient d'avoir lieu d'ailleurs à la Halle. Là, pour le coup, c'était à la Halle. Activisme et pauvreté bâillonnée. Et c'est justement ce que nous allons explorer avec nos invités, le lien entre activisme, pauvreté et répression. Les invités étant, Sylvie.
Alors pour tenter effectivement de donner quelques réponses et surtout pistes de réflexion aussi autour de ces sujets, nous accueillons Florence Telofer, directeur de Prison
directrice
Insider. Directrice de Prison Insider. J'ai dit directeur, voilà. Je voulais que ça
c'est
avec l'offre. C'est ça, tu vois, donc entre Florence, Laurence, on aura tout dit. Donc je la refais. Florence Telofer, directrice de Prison Insider. Bonjour Florence.
Bonjour.
Mathieu Pourcher, responsable programme du mouvement Tournons la page, mouvement citoyen pour la promotion de l'alternance démocratique en Afrique. Bonjour Mathieu.
Bonjour.
Et enfin Germain Rukuki, militant de la société civile burundaise, défenseur des droits humains, qui témoignera notamment de son expérience. Bonjour Germain.
Oui, bonjour.
Et bienvenue.
Merci.
Ici l'ombre. La radio de Concertina.
Alors, on va commencer tout de suite cette émission avec Laurence, Florence, enfin, Prison Insider. justement, pour que vous puissiez expliquer aux auditeurs et auditrices quel est le rôle de Prison Insider, sa fonction, et puis vos objectifs, effectivement, un peu partout dans le monde, puisque c'est une organisation internationale.
Oui. Tout à fait.
Donc, on t'écoute.
Merci. Je suis la directrice de Prison Insider depuis 2019, ça fait bientôt 4 ans. Et Prison Insider, c'est une association qui est basée à Lyon et qui travaille à l'échelle internationale. Et c'est une plateforme d'information sur les prisons dans le monde. Notre objectif, c'est de faire connaître les conditions de détention des personnes détenues par le point de vue analytique des droits de l'homme, dans l'espoir que faire connaître la situation puisse aider le changement.
Vers ce programme, et vous arrivez à avoir des informations sur une bonne partie du monde. Je suppose qu'il y a quand même des lieux où ça doit être plus compliqué que d'autres.
Oui, alors de façon théorique, on couvre tous les pays du monde. De façon pratique, il y a certains pays sur lesquels on a des gros focus. On utilise par exemple un outil qu'on appelle les fiches pays, qui sont une analyse, un panorama exhaustif de A à Z des conditions données d'un pays sur une année donnée. Ça, on en a pour une quinzaine de pays, dont le dernier, c'est le Congo-Brazzaville, pas mal de pays d'Europe. Pour d'autres régions, on a des données, ce qu'on appelle des données clés, des statistiques, quelques informations clés. Et puis, on utilise aussi beaucoup, beaucoup la comparaison et le témoignage. Donc, c'est d'autres formats d'informations qu'on publie par l'expérience vécue, par le récit, par des interviews courtes pour entrer dans des sujets. Et ça permet aussi de compléter l'image pour certains pays où la réalité serait tellement complexe qu'elle serait difficile à documenter de façon exhaustive. Je pense par exemple au Brésil, aux États-Unis, à la Chine, qui sont des pays qui incarcèrent énormément, qui ont une population carcérale énorme. Certains fonctionnent de façon fédérale, donc il y a des décentralisés, donc il y a des législations différentes. Et là, on n'aurait pas la même capacité à avoir une information exhaustive.
Parce que justement, vous arrivez à avoir des informations, ça veut dire que vous avez des, et quand je dis vous, je parle d'une équipe, hein, des référents dans la quinzaine de pays que vous citiez pour lesquels vous aviez quand même des informations, ou alors des personnes sur place qui sont capables de vous faire remonter l'information, comment ça se passe
Alors, à Prison Insider, on fonctionne avec un réseau de contributeurs et de contributrices, certains qui sont très fidèles, très assidus, qui nous donnent de l'information pratiquement en continu, d'autres qui nous donnent de temps en temps accès. Ces contributeurs, c'est des gens de la société civile, c'est des journalistes, c'est des citoyens, ça peut être des avocats aussi, c'est parfois des mécanismes nationaux de prévention de la torture. On utilise aussi tout ce qui est publié sur Internet. Il y a quand même souvent des rapports, des documents qui parfois n'éclairent le sujet que sur une temporalité donnée ou sur un angle de vue donné, mais quand on combine tout ça, on arrive à avoir une image assez, assez complexe. Et il y a quand même un principe de base, malheureusement, sur les prisons, c'est qu'elles sont souvent conçues pour être opaques. Et il y a une règle qui dit que souvent, la personne qui est en capacité d'entrer en prison n'aura pas l'autorisation d'en faire sortir de l'information, et encore moins une information critique et objective, et que par contre, celle qui est à l'extérieur et qui a cette liberté, double liberté d'être à l'extérieur mais de faire sortir l'information, va devoir dépendre de sources secondaires. Et c'est pour ça qu'on a ce réseau de contributeurs avec le système qui est le nôtre, c'est de croiser l'information, de vérifier plutôt 3 fois, 4 fois qu'une, pour être sûr que ce n'est pas simplement un point de vue d'une prison, mais qu'on peut véritablement se dire que ça correspond à la réalité du pays.
Et pour aller chercher les témoignages dont vous parlez tout à l'heure, pour avoir les récits des personnes, là aussi ça doit être relativement compliqué.
Oui, on fonctionne beaucoup. Alors, opportunité, c'est pas un très beau mot, mais en fait, oui, on utilise toutes les opportunités qu'on a. On est en réseau assez étroit avec toute une série d'autres associations de la société civile, notamment dans le cadre de la plateforme Droits Humains, notamment avec Tournons la Page, avec la FIACAT, la Fédération Internationale des ACAT, les Actions des Chrétiens pour l'Abolition de la Torture. Et avec toutes ces associations-là, on garde le contact en leur expliquant de façon continue. Alors, la plupart commencent à bien nous connaître, mais en leur expliquant quel est notre objectif, pourquoi on veut faire sortir l'information et dans quelle mesure ça peut appuyer aussi leur activité, parce que ça va avoir un rôle dans leur travail de plaidoyer, pour informer leurs activités au quotidien. Et donc ce réseau-là nous permet souvent d'entrer en contact avec des gens qui sont disposés à témoigner. Et ça va être tout d'un coup 3 dans un pays, 1 dans un autre. On utilise beaucoup l'anonymat pour protéger les gens. On se pose parfois la question un petit peu autocritique de dire ces gens-là sont dans des situations très difficiles. Nous, tout ce que l'on leur propose, c'est de porter leur témoignage. Ça paraît un peu maigre face aux besoins qu'ils ont. Et très souvent, on est étonné de savoir à quel point le besoin d'être entendu, le besoin de ne pas être oublié est en fait très très haut dans la hiérarchie des besoins. Donc ça nous rassure aussi.
Primordial pour rester debout.
Absolument.
D'accord. Voilà. Et évidemment, pour traiter toute cette information, à Lyon, Prison Insider, vous êtes une douzaine.
Presque, on grandit. Non, on reste une petite équipe, on est une association jeune. Notre site est en ligne depuis 2017. À l'heure actuelle, on a 8 salariés. Donc ça commence à être moins absurde qu'il y a un certain temps. Et on travaille aussi beaucoup avec des jeunes en stage et en service civique qui sont un grand appui, même si c'est sur des missions courtes, mais qui rentrent très vite dans le sujet et qui nous nourrissent aussi beaucoup, parce que c'est des gens qui souvent connaissent peu le sujet et puis au bout de 2 mois, 3 mois viennent avec des idées. Donc c'est aussi pour nous une belle caisse de résonance par rapport au travail de sensibilisation. Et puis c'est comme ça aussi qu'on construit une petite communauté de passionnés de l'information sur les prisons.
La transmission se fait entre les générations aussi.
Absolument.
Alors, est-ce que vous pouvez nous donner une image de la population carcérale dans le monde en général, même si on sait qu'il y a énormément de disparités d'un pays à l'autre, c'est pas facile de donner une image complète, surtout en peu de temps, mais qui pourra expliquer aussi justement le lien entre pauvreté et répression et incarcération.
Les estimations sur la population carcérale mondiale totale sont un petit peu plus hautes que 11 millions. Ça fluctue. Pendant le Covid, ça avait un peu baissé. C'est très vite remonté. Mais grosso modo, on parle de plus de 11 millions de personnes en prison dans le monde. En énorme majorité, ces gens sont des auteurs d'infractions non violentes. Donc ça vient contredire l'idée populaire qu'on a parfois. S'il est en prison, c'est que c'est un criminel ou une criminelle. Ça concerne vraiment une grande minorité. C'est aussi une énorme majorité de gens qui sont en l'attente de leur jugement, donc ce qu'on appelle en détention préventive, provisoire. Ça veut dire qu'ils sont considérés innocents tant qu'ils n'ont pas été jugés coupables. Ça peut durer parfois très très longtemps. Normalement, le principe international dit que le recours à la préventive, il est au minimum. Dans la réalité, ce n'est pas le cas. L'autre constat sur les origines et les milieux des gens en prison, c'est que la pauvreté, elle est vastement surreprésentée. Les minorités ethniques, linguistiques, religieuses, beaucoup de personnes en rupture sur des questions de santé mentale. Les personnes en difficulté psychique sont largement surreprésentées en prison. Et en plus, la prison augmente quasi systématiquement les troubles. Les questions d'addiction, les personnes qui sont dans des situations de sans-abri, la prostitution, enfin toutes sortes de situations de vie qui font qu'on est plus susceptible de se retrouver derrière les barreaux. En termes de statistiques, en Europe, on a environ 20% de la population carcérale qui est d'origine étrangère. Mais cette moyenne-là, elle cache des disparités. En Suisse, on est à près de 45%. Donc, c'est quand même énorme. Et pour citer deux autres exemples, en Australie, on voit que la population aborigène est dramatiquement surreprésentée en prison. C'est 27 personnes des personnes détenues qui sont aborigènes, alors que c'est 2% à l'extérieur.
Oui, 27%. Dans les prisons, alors qu'elles sont 3% de la population.
Voilà, donc elles sont surreprésentées. J'arrive plus à faire les mathématiques, mais largement surreprésentées.
L'après-midi est dur pour vous, on le reconnaît, puisqu'on vous fait refaire l'atelier finalement que vous venez de faire à la Halle.
On parle deux fois. Et puis, un autre chiffre, aux États-Unis, on sait, c'est notoire que les populations afro-américaines sont surreprésentées en prison. C'est 40% des personnes en prison qui sont noires et à l'extérieur 13%. Donc là aussi, on a une énorme inégalité de risque face à la prison.
Et vous le faisiez remarquer dans l'atelier tout à l'heure, finalement, la prison, c'est conçu comme un moyen de rétention des crises, plus que comme un moyen de maintenir simplement l'ordre public, si on veut. Encore faudrait-il définir qu'est-ce que c'est que l'ordre public, mais c'est vraiment un moyen de pression sur les populations, et c'est pour ça que ça concerne plutôt les populations dites délinquantes, puisque c'est, comme vous le faisiez remarquer dans l'atelier, j'y reviens une fois de plus, une délinquance de survie.
Oui, le principe international admis, c'est que la justice doit venir sanctionner les comportements interdits et que la prison doit venir en dernier recours pour les comportements interdits les plus graves, les plus dangereux, les plus susceptibles
de remettre en cause la vie en société.
Dans les faits, ce qu'on constate, c'est que la prison, c'est quand même beaucoup plus souvent un moyen de contention des comportements indésirables. Et la définition du comportement indésirable, elle va varier d'un pays à l'autre, d'une région à l'autre, d'une décennie à une autre, parce qu'on va tout d'un coup se focaliser sur certains délits ou certaines anomalies. Finalement, c'est aussi beaucoup un moyen de contention de la marginalité.
Oui, voilà, effectivement, de la marginalité. Ce qui explique justement le lien que vous proposiez entre répression et pauvreté. Puisque c'est effectivement les populations pauvres qu'on retrouve en priorité dans les prisons.
Oui, et on constate une grande inégalité, non seulement sur le genre de délit qui va être passible de peine de prison, mais aussi sur le traitement des personnes. On a parlé tout à l'heure dans l'atelier de la comparution immédiate, et on constate que c'est les gens qui vont faire l'objet de comparution immédiate à délit soupçonné égal ne seront pas des mêmes milieux économiques, n'auront pas les mêmes origines, notamment migratoires. Donc il y a aussi une discrimination, même à délit égal.
Et pour une peine qui finalement sera disproportionnée par rapport à la faute commise.
Absolument.
Dans le cas de la comparution immédiate, probablement.
Absolument. C'est aussi la porte ouverte à des peines qui deviennent presque, dans les outils, dans les arsenals juridiques, on le voit, on a parfois des peines de prévention, c'est-à-dire qu'on vous a attrapé dans la rue, vous étiez en train de mendier, vous aviez un comportement peut-être un petit peu agressif, et sous couvert d'une peine ou d'une disposition légale ou d'une autre, on va considérer que vous êtes un danger à la sûreté, et on pourra presque préventivement vous arrêter avant que véritablement vous fassiez quelque chose de répréhensible.
Et ça, on le voit poindre aussi, justement, dans nos sociétés dites démocratiques et avec le respect de la légalité, etc. On voit quand même ce système poindre alors qu'on le pensait réservé à une élite dont on ne faisait pas partie, si on peut parler comme ça.
Oui, c'est quelque chose qu'on arrive beaucoup plus facilement à se représenter dans d'autres pays, moins démocratiques, mais là-bas c'est une dictature.
Tout est très relatif.
En France, on a eu toute une série de délits, notamment autour des questions de terrorisme. Alors face à un risque avéré, mais très difficile à détecter et à anticiper, et on a des délits de même pas d'opinion, des délits d'opinion présupposés. On pense que vous étiez en train d'imaginer peut-être un jour vous radicaliser. C'est quand même très inquiétant.
Oui, ça devient très complexe de faire un peu la part des choses. Mm-hmm. Alors ben voilà qui a donné le ton à notre épisode, à notre premier épisode du magazine À l'ombre de Concertina. Ce qui s'avère très joyeux, mais de toute façon, les rencontres concertina sont sur les enfermements, c'est le sujet, c'est comme ça. Il faut bien se confronter à la réalité d'une façon ou d'une autre. On va faire une petite pause musicale avec Roseau et Mélissa Lavaux, You Can Discover, c'est ça.
C'était Mélissa Lavaux et Roseau avec You Can Discover, la haïtienne Mélissa Lavaux. Beau morceau. Vous écoutez le MAG d'ici l'ombre, la radio éphémère de Concertina, les rencontres estivales autour des enfermements sur le 106.6 à Diolfi sur Radio La et dans le bassin annonéen sur Radio d'ici. Alors nous continuons à explorer les liens entre pauvreté, activisme et répression. Avec Mathieu Pourchier, qui est responsable programme pour le mouvement Tournons la page. Alors Mathieu, Tournons la page se présente comme un mouvement citoyen international pour la promotion de l'alternance démocratique en Afrique. Comment est né ce mouvement ?
Alors Tournons la page, à la base, c'était une campagne qui a été imaginée par un groupe d'acteurs de la société civile africains et européens qui est arrivé au constat que dans beaucoup de pays, avec des présidents qui s'éternisaient au pouvoir, il y avait une absence, du coup, évidemment, de démocratie, mais également de développement et de bien-être des populations dans ces pays-là. Et ils ont voulu lancer cette campagne, cet appel international à la base, à signature. Et il y a des centaines de personnes du monde entier qui ont signé cet appel, qui a été utilisé d'ailleurs pour faire une grande action de plaidoyer dénonçant ces situations-là. Cette campagne, du coup, derrière, a tellement bien marché qu'elle s'est structurée, qu'elle a été accompagnée par le Secours catholique, qui a décidé de mettre un petit peu des moyens pour continuer les actions. À la base, du coup, c'était vraiment l'Afrique centrale, donc Congo, Cameroun, RDC, Gabon et Burundi. Et petit à petit, la campagne s'est développée, structurée, jusqu'à devenir un mouvement en 2020, qui aujourd'hui est donc une organisation officiellement déposée et qui compte 15 coalitions nationales.
Alors, quand tu dis 15 coalitions nationales, donc 15 pays représentés.
C'est ça. En fait, il y a 14 pays représentés en Afrique et aujourd'hui, on a commencé également à travailler en Europe avec une coalition pour l'instant européenne qui s'est mise en place et qui travaille également sur des enjeux de politique étrangère européenne.
Alors, par qui ça a été c'est animé? Qui sont les personnes qui régissent à l'avenir et à la vie de ce mouvement?
Alors, déjà, le mouvement est régi au niveau local par des organisations locales de la société civile qui sont très larges. Donc, il y a des organisations de jeunesse, des organisations de journalistes, d'avocats, d'artistes. En fait, et toutes les personnes qui sont intéressées par ce sujet et qui respectent la charte de Tournons la Page, qui a un certain nombre de critères, dont les deux plus importants, qui sont la non-violence et l'apartisanisme. Car clairement, on est un mouvement politique, mais on ne prend pas parti pour telle ou telle partie, justement. On veut vraiment garder cette indépendance pour ne pas être qualifié d'opposition et pour vraiment montrer que nous, on est là pour essayer de faire avancer les choses sur la démocratie en général dans les pays.
Oui, quand tu dis on est un mouvement politique, c'est-à-dire que c'est vraiment remettre le sens politique au sens premier du terme, au centre de ces pays et de la vie politique de ces pays.
Exactement. Et du coup, toutes ces coalitions nationales sont représentées au niveau international par un comité de pilotage qui réunit une personne par pays qui prend les décisions stratégiques pour l'ensemble du mouvement.
Il y a 250 organisations qui participent à Tournons la Page.
C'est ça, exactement.
Donc dans la société civile, comme tu le disais. C'est important de vraiment rappeler, quand tu dis remettre l'alternance démocratique en fait au centre, ça veut dire quoi? Quel est l'objectif réellement et quels sont les outils que vous pouvez mettre en place ou que vous pouvez permettre au peuple de se réapproprier?
Les objectifs, c'est vraiment juste que le peuple se réapproprie de son pays. Parce qu'aujourd'hui, on voit dans beaucoup de pays où il y a une classe dirigeante qui ne change pas depuis des dizaines d'années pour certains pays. On peut prendre l'exemple du Cameroun, le président Paul Biya est président depuis l'année dernière, depuis 40 ans. On a également le cas en Ouganda avec le président Museveni, on a le cas au Togo avec le président Gassimbe, où les gens, du coup, ils n'ont plus aucun contrôle sur la façon dont le pays est gouverné et géré. Et aujourd'hui, nous, ce qu'on veut faire, c'est ramener la démocratie d'abord au niveau local, resensibiliser les gens sur le fait que c'est à eux de choisir qui les gouverne, c'est à eux, par leurs représentants, de choisir un petit peu les différentes lois qui vont s'appliquer à eux et faire en sorte justement qu'il y ait une alternance, un appel d'air, parce que c'est aussi ça l'alternance, c'est autoriser de nouvelles idées à venir, autoriser de nouvelles stratégies, de nouvelles politiques qui pourraient permettre de répondre aux besoins de la majorité de la population.
Donc ça, c'est aussi lutter, en parallèle, c'est lutter contre la pauvreté, c'est lutter pour l'accès à l'éducation. Enfin, j'imagine, parce que pour permettre à un peuple de reprendre possession justement de ses droits, ça veut dire qu'il va falloir des politiques qui se présentent contre ces dictateurs, qui puissent vraiment développer des nouvelles idées, des nouvelles propositions, et en parallèle aussi des gens qui vont pouvoir voter et donc pouvoir être véritablement citoyens, citoyennes.
Ah, bien sûr, c'est vrai que l'éducation, c'est la base de tout. Quelqu'un qui ne va pas connaître même le fait politique, on a beaucoup d'exemples dans beaucoup de pays que les gens ne savent même pas, en fait, que leur vote compte. Je prends l'exemple du Niger, où j'ai habité quelques années, où les gens, tous les 5 ans, ils vont à une élection, mais ils reçoivent un billet de 500 francs et pour acheter un vote. Et ils sont contents, tous les 5 ans, ils reçoivent un petit billet, mais ils ne se rendent pas compte qu'au final, le vote qu'ils vont mettre dans l'urne, c'est ce qui va conditionner un peu les 5 années à venir. Et le fait de sensibiliser la population à ces enjeux-là, c'est ce qui pourrait permettre justement de développer et que les gens puissent avoir un vrai contrôle citoyen de l'action publique, à la fois au niveau local et régional et national.
Parce qu'on a beaucoup parlé de répression, c'est aussi le cœur du sujet. Aujourd'hui, tu as parlé donc effectivement des dictatures, en tous les cas du manque de démocratie à minima. C'est une véritable répression systématique qui est mise en place sur les opposants et opposantes. Comment vous, concrètement, vous agissez du coup sur le terrain ?
Alors, ça va vraiment dépendre des contextes, parce qu'il y a des contextes qui sont très différents et certains beaucoup plus difficiles que d'autres. Donc, ça peut aller de la sensibilisation, où on va aller dans les quartiers à la rencontre des gens, on va organiser des caravanes de la démocratie pour aller faire des tournées dans le pays de sensibilisation, aller faire évidemment des actions de communication, des actions de plaidoyer auprès des autorités, auprès des organisations internationales aussi, qui peuvent avoir un moyen, je dirais pas de pression, mais d'influence plutôt, sur les États. On peut... vraiment faire des actions artistiques. Là, par exemple, le 14 septembre, on va organiser un grand concert sur la limitation des mandats. C'est des choses comme ça qui vont permettre de faire prendre conscience aux gens de l'importance de l'alternance démocratique pour leur pays.
Donner de l'information.
C'est ça.
Aussi,
exactement.
Donner des outils pour pouvoir avancer.
Vous essayez de créer une culture politique.
Voilà, une culture politique du changement démocratique. Ouais.
Alors, vous êtes, tu es responsable des programmes, ça veut dire quoi ?
Ça veut dire que moi, je coordonne un petit peu tout l'opérationnel de Tournons la Page. Donc, je mets en lien les différentes actions entre les coalitions. On organise également des campagnes internationales qui sont partagées entre plusieurs coalitions. Actuellement, on est dans une grande campagne sur la limitation des mandats, justement, qui a été lancée en 2021 et qui continue... 22, pardon, et dont le but, c'est notre grande action, c'est d'aller remettre des témoins de limitation des mandats à des présidents pour qu'ils s'engagent à ne pas faire plus de 2 mandats. Mmh. Ça, c'est la grande action. Et après, il y a également beaucoup d'actions de communication au sein même des pays. On a mené des actions au Niger, au Togo, en Guinée, au Gabon. Et on essaie comme ça, du coup, de faire également des mouvements, des campagnes internationales pour que les gens se rendent compte que c'est partout, en fait, les questions de démocratie. Et c'est partout... pas que en Afrique. Et ça, c'est vraiment très important de montrer également que en Europe aussi, il y a beaucoup de problèmes de démocratie. Bien sûr. En Amérique latine, en Amérique en général, en Asie, c'est dans le monde entier, en fait, on est dans un recul aujourd'hui démocratique qui est assez effrayant, et que il est temps aujourd'hui que les populations se mobilisent pour reprendre la main sur leurs dirigeants.
Alors toi, je crois que ça fait 4 ans que tu es dans le mouvement. Il y a un petit recul, ça permet d'avoir un petit recul. Est-ce que tu as quelques exemples de, voilà, là aussi encore une fois assez concret, de réalisation, d'avancée, enfin, réalisation peut-être, mais au moins d'avancée dans certains pays.
D'avancée déjà, on a réussi avec bien sûr la société civile locale et d'autres partenaires à faire parler de ces sujets dans certains pays. Et à faire parler des situations, des réalités de certains pays au niveau international. Par exemple, sur le Niger, on a réussi à organiser une grande observation électorale lors des dernières élections 2021-2022, où on a déployé plus de 600 observateurs partout dans le pays, qui est un pays en guerre actuellement. Et c'est un rapport qui a fait beaucoup de bruit, puisque c'est un rapport, il n'y a jamais eu d'organisation qui a fait un rapport comme ça, et ça a montré une réalité que les gens ne connaissaient pas au Niger. Une réalité, du coup, d'achat de voix, comme je vous disais, mais également de dangers terroristes au moment des élections, avec des attaques de bureaux de vote qui compromet un petit peu une vraie démocratie, puisqu'on ne sait pas trop ce qui se serait passé dans une situation calme. On a ça, on a également du coup cette campagne limitation des mandats qui permet de faire une grande communication sur des présidents qui s'engagent à quitter le pouvoir après deux mandats et qui, du coup, on l'espère, va influencer d'autres présidents à suivre le rythme. Et c'est, ouais, je dirais pas qu'il y a d'avant, enfin, on n'a pas réussi à faire tomber de dictateur, si c'est ça la question, mais clairement, on a réussi à vraiment
on a vraiment réussi à
ramener ce sujet, en tout cas, sur la table dans un certain nombre de pays.
Alors, dans l'atelier, puisqu'on parle, on parle aussi des lieux d'enfermement, hein, c'est concertina, on parle aussi de ce sujet-là. Tu as fait part de ton expérience, on va arriver sur les témoignages d'expérience aussi, d'expérience d'enfermement, voilà, où tu as été arrêté à un moment. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots, parce que je trouve que c'est intéressant et parce qu'ensuite, tout à l'heure, on parlera avec Germain qui a une toute autre expérience, mais voilà, de voir à quel point ce que disait Florence est aussi une réalité, c'est que les lois, elles servent aussi à être détournées et à être utilisées comme ça arrange le pouvoir. Là, en l'occurrence, comment ça s'est passé pour toi et qu'est-ce qui s'est passé ?
Bah, du coup, une fois qu'on a sorti ces rapports sur l'observation électorale, qui ont fait beaucoup de bruit et qui ont vraiment gêné le pouvoir en place, puisqu'on disait clairement que les élections ne s'étaient pas bien passées. On n'a pas dit tel ou tel avait gagné, parce que ce n'est pas notre rôle à nous.
Bien
justement,
sûr.
On est vraiment apolitique, apartisan. Apartisan, pas apolitique, justement. On a commencé à sentir une vraie répression, à la fois par un système de lois liberticides qui ont été mis en place, alors là au Niger, dans ce cas-là, mais au niveau vraiment international, et une pression souvent avec des policiers qui nous suivent dans la rue, qui mettent un pick-up devant le bureau, qui vont du coup mettre un peu la société civile sous tension, qui vont faire peur aussi aux familles. Parce que, mine de rien, on dépend aussi de nos familles qui n'ont pas envie qu'il nous arrive du mal, que nous, on n'a pas envie qu'il leur arrive du mal aussi, parce qu'il y a eu beaucoup de menaces sur des familles. Alors moi, la mienne n'était pas au Niger à ce moment-là, donc j'ai été un peu épargné, mais j'ai beaucoup de collègues qui ont subi ces répressions-là. Et un jour, j'ai été arrêté. J'étais sur ma moto et j'ai été attrapé par un groupe de personnes en civil qui m'ont emmené dans un pick-up banalisé. C'était un peu un enlèvement, puisque je ne savais pas ce qui se passait. Et j'ai été déposé au poste de police et j'apprends quelques heures plus tard que je suis arrêté pour attroupement illégal. Et ça montre vraiment que tout est bon.
Ouais.
Il y a peu importe la loi, là c'est attroupement illégal, mais des fois ça va être trouble à l'ordre public, ça va être cybercriminalité, ça va être terrorisme. Peu importe, en fait. Dans des états comme ça, où il n'y a pas vraiment d'état de droit. Et ça, c'est au niveau mondial qu'il y a un recul également de l'état de droit, où il y a de plus en plus de personnes arrêtées pour leurs opinions. On peut se retrouver derrière les barreaux, comme le disait Florence, juste parce qu'on est des voix dissidentes. Mmh. Et bon, moi, j'ai eu la chance, contrairement à d'autres, de faire que 3 jours de détention. Mais c'est vrai que c'est quand même assez... difficile à vivre, surtout pour une première arrestation.
C'est 3 jours d'expérience. Ouais.
C'est 3 jours d'expérience, mais qui m'a permis du coup de aussi connaître un peu mieux ce milieu-là, qui est pas joyeux, mais qui est très intéressant, parce que je me suis retrouvé en cellule avec que des gens qui avaient été ramassés sur le bord de la route comme moi. Mmh. Et personne n'avait été condamné, bien sûr, parce qu'on venait d'être arrêté, mais plus de la moitié, en tout cas, n'avait rien fait, clairement. Et vraiment, là, dans ces moments-là, les premières 24 heures, j'ai été coupé du monde et ça a été vraiment 24 heures difficiles. Et au bout de 24 heures, j'ai commencé à avoir des informations de l'extérieur et de voir un petit peu la chaîne de solidarité qui s'était montée autour de mon cas et autour du cas de certains collègues qui avaient été arrêtés en même temps que moi. On était 5 personnes arrêtées. Et voir qu'il y a un soutien autour, voir qu'on n'est pas oublié,
ça
change complètement l'état d'esprit et ça nous permet de tenir. Okay. Et vraiment, c'est ça l'appel que j'ai dit tout à l'heure lors de la conférence. C'est quand vous voyez qu'il y a des gens qui sont arrêtés, soit pour leurs opinions, soit pour des raisons complètement farfelues, il faut qu'il y ait un soutien qui vienne de l'extérieur, qui prend toutes sortes de formes, hein, que ce soit des communiqués, que ce soit des messages radio, que ce soit juste des publications dans les réseaux sociaux. Moi, j'ai eu des dizaines d'amis qui ont publié dans les réseaux sociaux.
Oui, c'est dire on est encore là.
C'est dire on t'a pas oublié. Et ça, c'est très important.
Est-ce que je rebondis sur ce que Germain disait aussi en disant tant qu'on n'a pas vécu cette expérience, même courte, on n'a absolument aucune conscience de ce que ça veut dire que l'enfermement, en fait, que l'incarcération. Il faut vraiment le vivre pour en comprendre toute la déshumanité, on pourrait presque dire ça.
Et pourtant, les rencontres concertina sont là justement pour faire prendre conscience malgré tout.
Oui, mais c'est vrai que voilà, le vivre dans sa chair, je pense que c'est vraiment autre chose. Merci Mathieu. Je vous propose de faire une seconde respiration musicale avant de rejoindre Germain et son expérience. On écoute Fatoumata Diawara avec Ansera, c'est la Côte d'Ivoire. C'était Fatoumata Diawara et Damon Albarn avec Ansera. Vous écoutez le mag d'Ici l'ombre, la radio éphémère de Concertina, les rencontres estivales autour des enfermements. Et on continue autour de notre thématique pauvreté, activisme, répression. Et on part au Burundi là maintenant avec Germain Rukuki. Germain, on fait le pont. Finalement, on est bien d'accord que de toute façon, vous travaillez tous ensemble aussi et toutes et tous ensemble, les différentes associations, les différentes structures. Germain, toi, tu es défenseur des droits humains, voilà, au sens le plus large. Et la répression au Burundi est très forte contre justement contre tous les activistes. Et toi-même, tu as subi de nombreuses intimidations avant de finir par être incarcéré en juillet 2017. Je ne dis pas de bêtises.
Bonjour.
Bonjour.
Ah oui, bien sûr. Moi, je suis un employé de l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture. J'avais adhéré à l'ACAT depuis 2004, où j'ai travaillé comme bénévole depuis 2006. Avec l'ACAT, j'ai visité plusieurs lieux de détention, les cachots et prisons. Et l'ACAT, c'est une association qui lutte pour la torture, contre la torture. Oui, elle est membre du réseau de la Fédération internationale des actions des chrétiens pour l'abolition de la torture, donc la FIACAT. Et je travaillais pour cette association. Et avec cette association, depuis 2015, ils ont soupçonné que, après sa radiation, ils ont soupçonné que je suis resté au Burundi pour travailler au compte de l'association, que je produisais des rapports, et j'en ai été victime. J'en ai été victime. Et avant, j'avais même risqué à des arrestations. J'avais risqué
des enlèvements,
à des enlèvements ici, où j'ai échappé de justice à tout ça. Et c'est au mois de juillet 2017 où finalement, on m'a mis la main dessus. J'ai été arrêté et conduit au cachot. Au cachot du service national des renseignements, j'y ai passé 2 semaines et après j'ai été transféré à la prison centrale de Ngozi au nord du Burundi. C'est à peu près à 120 km de la capitale de Bujumbura. À l'époque, c'était la capitale politique. Maintenant, c'est la capitale économique. Mm-hmm. La capitale politique a été déplacée au centre du pays. Voilà. Ce que j'ai constaté, c'est que dans un pays où il règne l'autoritarisme, la justice et la prison sont des instruments de l'Europe. Deviennent des instruments de l'oppresseur. Ils utilisent la justice pour fabriquer des accusations et chercher une peine plus longue afin que l'activiste puisse passer un long moment incarcéré à la prison.
On l'efface.
Oui, on l'efface. Et ça aussi, c'est pour faire peur aux autres activistes qui travaillent pour les droits de l'homme. Et voilà pourquoi même, ce qui fait que les activistes, les organisations qui sont sur place dans le pays n'osent pas dénoncer des violations qui se commettent sur place.
Pardon, excusez-moi, je te coupe, mais toi, tu as été accusé quand même tu as eu des chefs d'accusation qui étaient complètement hallucinants, on peut le dire, complètement dingues, et qui t'ont valu 32 ans. La peine était de 32 ans de prison.
Atteinte à la sécurité de l'État, c'est ça ?
Oui,
entre autres.
Oui, on a fabriqué des accusations très graves, justement pour chercher une peine la
plus
longue
possible.
C'était une affaire de 6 chefs d'accusation. C'est curieux, c'est comique même pour un innocent. Quand on l'accuse d'assassinat de militaires civils et policiers, quand on l'accuse d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État, d'attentat contre le chef de l'État, de rébellion, de participation à un mouvement insurrectionnel, de dégradation des édifices publics et privés. Tout ça pour un innocent.
Ouais. Ouais. Et pour être condamné le plus longtemps possible,
ah, oui.
Hors service.
Oui, et la première instance m'a condamné à 32 ans de prison. Et la seconde instance, elle a confirmé. Finalement, j'ai introduit un pouvoir en cassation. Oui, et c'est là où, plus tard, après, 4 ans après, où cette peine-là a été ramenée à une peine d'une année. La cassation a dû renvoyer le dossier à la cour d'appel pour être rejugé de nouveau avec d'autres juges. Voilà.
Pardon. Non, on redémarre.
Je rebondis parce que tu as parlé tout à l'heure, Mathieu, des familles, et que Germain, toi aussi, tu en parlais ce matin en disant que la pression qui est faite sur les opposants, sur les activistes, en les mettant en prison, elle est aussi faite du coup via les familles. Parce que ta famille était de fait en danger. Je crois qu'ils sont partis d'ailleurs du Burundi.
Oui, le jour de mon arrestation, c'est le même jour où ma famille a quitté le pays pour s'exiler au Rwanda. Parce que, en fait, mon épouse risquait aussi une arrestation. Parce que le commissaire qui m'avait arrêté, il est retourné le même jour à la maison pour arrêter mon épouse. Heureusement, elle n'était plus là. Oui, elle était partie avec mes enfants.
Alors, cette intimidation sur les militants, sur leur famille, sur les réseaux, ça pousse à la clandestinité. C'est ce qui organise justement l'action clandestine, mais qui est certainement moins efficace qu'une action menée au grand jour. Et c'est ce qui rend l'action de la diaspora exilée peut-être plus efficace pour intervenir sur les pays en question. C'est-à-dire que de l'extérieur, vous avez plus de pouvoir que de l'intérieur.
Oui, de l'extérieur, nous sommes plus efficaces que de l'intérieur. Et d'ailleurs, après ma libération, je comptais faire partager l'expérience vécue de la prison, mais par quels moyens ? Je me disais au pays, ce n'était pas possible. Et finalement, quand j'ai quitté le pays pour m'exiler, c'est à ce moment-là où j'ai fondé une association dénommée ESDDH, Ensemble pour le soutien des défenseurs des droits humains en danger. Et c'est dans ce cadre-là où j'essaie de partager mon expérience vécue de la prison, faire un accompagnement aux défenseurs des droits de l'homme qui sont menacés, qui sont en détention, leur partager l'expérience, essayer de les guider comment se comporter. Et alors, les associations qui se trouvent en exil travaillent plus efficacement que les associations qui se trouvent sur terrain au Burundi, parce que celles-là, elles sont muselées. Les autorités burundaises essaient de faire un contrôle de rapport, un contrôle de leur travail, et ils ne peuvent pas s'aventurer à publier des rapports sensibles. D'ailleurs, ils savent que ce que l'on a vécu, notre sort, l'emprisonnement, et ce qui se trouve sur place, ils ont peur.
Bien sûr.
Oui, pour risquer, ils évitent la prison, ils évitent l'emprisonnement, ils évitent la disparition forcée. Et voilà pourquoi ils ne peuvent pas travailler efficacement. Alors, avec nos associations qui se trouvent en exil, on essaie de travailler avec, on essaie de mettre en place nos canaux avec des observateurs invisibles qui essaient de suivre la situation des droits de l'homme, qui nous communiquent différentes violations qui se commettent là-bas. C'est via ces canaux-là. Et on a confiance parce que finalement, dans un système qui n'est pas là pour asseoir le respect, la promotion des droits de l'homme, ça fâche le peuple, ça fâche les familles, ça fâche les victimes. Et au bout du compte, les gens se lèvent pour mettre sur table ce qui ne va pas.
Bien sûr, mais pour ça, il faut qu'ils aient l'information et on revient aussi un peu à tournons la page aussi. C'est qu'il faut que l'information, elle puisse revenir dans le pays pour pouvoir effectivement faire évoluer les choses. Juste une petite parenthèse là aussi. On a parlé de l'importance quand on est en prison, de ce qui se passe à l'extérieur, de savoir qu'on n'est pas oublié. Qu'il y a des gens. Je crois qu'Amnesty International a travaillé beaucoup aussi, enfin en tous les cas te soutenait. Il y avait de l'information. Est-ce que toi, quand tu étais incarcéré, tu avais l'information justement du fait qu'il y avait des choses qui bougeaient à l'extérieur pour toi, que tu n'étais pas oublié?
Oui, via quelques membres de ma famille, via mes avocats.
Tu avais voilà.
Oui, j'avais accès à l'information via d'autres visiteurs. Qui suivait ce qui se passe dans les radios, sur les réseaux sociaux. J'avais accès à cette information, me parvenait. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé parce que ça maintenait mon courage, ma résilience. Oui. Et d'ailleurs, en prison, je me rappelle que j'ai rédigé des lettres de vœux que j'ai adressées à différentes organisations, et à la CAT aussi, dont j'étais membre, employé avant sa radiation. Je me rappelle bien quand la CAT a reçu un prix de la part de la fondation de la CAT France. J'ai pris un extrait de la lettre, un paragraphe de la lettre que j'avais adressée à la CAT Burundi quand j'étais en prison, où je disais, c'était un extrait d'encouragement. Ne baissez pas vos bras, restez debout. Ne soyez pas découragés par ma détention. Il faut garder la machine en marche. Mais les oppresseurs travaillent, il faut aider tout le monde. Même les oppresseurs d'aujourd'hui, ils pourront avoir besoin de vous demain. Donc, voilà.
Je trouve que c'est une belle conclusion finalement, parce que ça résume assez bien tout ce qu'on a pu dire. Je pense qu'on peut
s'offrir une toute petite respiration.
Ici l'ombre, la radio de Concertina.
Parce que nous sommes déjà à la fin de notre émission. Alors, il faut remercier nos trois invités, Germain, défenseur des droits humains, Mathieu de Tournons la page et Florence de Prison Insider. Tous les trois, vous avez l'habitude de travailler ensemble. Et vous avez travaillé toute cet après-midi ensemble dans votre atelier et puis ici à Radiola, dans Ici l'Ombre, sur le 106.6.
Sur le 106.6. Hein? Et donc sur le bassin annonéen.
Et ben voilà.
En 106.6. Et
même
sur Radio
Sud. Et même le Sud-Loire à Saint-Julien, Molin, Molette. Des noms comme ça s'invente pas. Et pour nous faire partager justement toute votre expérience, vos regards sur l'enfermement, sur la répression, sur le lien entre activisme, pauvreté, répression, sur le besoin que les prisonniers ont de cet appui extérieur, c'est absolument indispensable. Donc, quand on est libre, quand on a la joie d'être libre, on peut se permettre de soutenir toutes ces causes-là, et Dieu sait s'il y en a à soutenir. Je pense notamment, et je le dis, j'en profite, aux prisonniers palestiniens et palestiniennes. alors vous pouvez retrouver demain à l'ombre de Concertina à 17h dans le studio radio qui est installé au parc de la Baume, parce que le beau temps sera revenu, il est déjà là. Et nous serons cette fois, nous aborderons les questions de genre et sexualité en prison avec les doctorants en droit Quentin Marcarian et Yanis Boubecker et puis Ludine Kaila aussi. Et Jean-Sébastien Blanc, chercheur doctorant en études de genre. Donc tout un programme qui s'avérera certainement très intéressant. Et puis toute la journée, les ateliers, les conférences à découvrir sur le programme papier que vous pouvez trouver à la Halle ou au Parc de la Baume, ou le programme pas papier sur le site de Concertina, les rencontres Concertina. Et Sylvie veut vous faire part de quelque chose.
Ah bah non, pas du tout, j'étais en train de...
Elle me mettait le programme sous le nez, mais vous avez qu'à aller le chercher vous-même, donc comme je vous l'ai indiqué. Merci à tous et à toutes, au revoir et à très bientôt.
Merci Fred et merci à tous.
Merci beaucoup.
Merci.
À l'ombre de Concertina, l'émission en direct et en public d'ici l'ombre, depuis la Halle à Dieulefit.